Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Première as du jour, place à votre journal des médias, le sommaire.
Quel score pour les finales de Roland-Garros? Qui est vraiment Melania Trump? Qui va représenter la France à l'Eurovision Junior? Et quel avenir pour Big Little Lies?
Que de questions, mais qui a regardé quoi hier soir? Sont les audiences? Qu'est-ce que les Français ont regardé samedi d'abord à la télé?
Alors la bataille a été extrêmement serrée une fois encore avec 50 000 téléspectateurs d'écart entre les deux premiers. Au final, c'est un inédit de Magellan sur France 3 avec Thierry Beccaro en guest, on en parlait vendredi, qui s'est imposé de justesse avec 4 millions de personnes au rendez-vous, soit 19,5% de part d'audience. TF1 est deuxième, juste en dessous du coup des 4 millions de téléspectateurs avec la finale de The Voice Kids. La part d'audience s'élève à 22,1% et surtout 28% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Tous ces scores sont en légère hausse sur un an. France 2 a pris la troisième position avec le premier prime animé sur la chaîne par Laurence Boccolini. Ça s'appelait Les comiques préférés des Français, 50 ans d'humour, et ça a séduit 2,5 millions de personnes pour 13,7% de part d'audience. C'est un bon score pour la 2.
Et hier soir dimanche,
c'est M6 qui est en tête avec le match de foot France-Portugal. Au compteur, 6 millions de téléspectateurs pour 25% de part d'audience. C'est un bon score pour ce type de match. TF1 s'est classé deuxième avec 50 nuances plus claires. Le troisième et dernier volet de la saga, qui était inédit en clair, a été suivi par 3,3 millions de téléspectateurs, soit 14,7% du public, un petit score. En revanche, la Une est largement leader sur les femmes de moins de 50 ans avec 30% de part d'audience sur cette cible. Et c'est France 2 qui complète le top 3 avec Samba, le film avec Omar Sy en rediffusion, a attiré 2,7 millions de personnes pour une part d'audience de 12,2%.
Culture Média. Et on commence ce journal avec une autre audience très attendue, celle de la finale de Roland-Garros.
Hier après-midi, Rafael Nadal a affronté une nouvelle fois Novak Djokovic sur le court central. Évidemment, la rencontre était très attendue et France 2 a donc fait le plein de téléspectateurs. En moyenne, ils étaient 3,7 millions à suivre la leçon donnée par l'Espagnol au Serbe, soit 27,1% du public. À titre de comparaison, l'an dernier, 3,3 millions de téléspectateurs avaient suivi la finale qui avait opposé cette année-là Rafael Nadal à Dominic Thiem.
Et côté femmes, ça donnait quoi? Enfin, non pas en audience, mais sur le court.
La finale a eu lieu samedi après-midi. Elle a opposé Iga Swiatek à Sofia Kenin. La victoire de la Polonaise a fait vibrer en moyenne 1,8 million de fans de tennis pour 19% de part d'audience. C'est un score qui est relativement stable sur un an.
On parle beaucoup de Donald Trump, mais on parle moins de son épouse.
C'est sur la personnalité énigmatique de Melania Trump que Laurence Haïm s'est penché dans un documentaire inédit. Il a été mis en ligne aujourd'hui sur le site arte.tv. Il sera diffusé le 2 novembre sur la chaîne parlementaire. Louise Bernard a rencontré la journaliste et lui a demandé pourquoi elle avait décidé de se pencher sur la première dame des États-Unis.
Alors chaque fois que j'étais dans des dîners, des déjeuners avec des gens, à la fois aux États-Unis et en France, on disait toujours « Ah, Mélania, elle est comme ci, ah, Mélania, elle est comme ça ». Et je n'aime pas qu'on mette des femmes dans des boîtes. Et donc j'ai eu envie de savoir si Mélania était vraiment comme ci ou comme ça. Quand vous êtes avec des amis et que vous leur dites « Melania Trump, elle doit peut-être être intéressante », vous avez 95% des gens qui vous regardent en disant « Mais non, c'est l'Arabie Saoudite, etc. » Et donc j'ai vraiment eu envie de casser ça et de m'intéresser à elle.
Alors Laurence Haïm a passé un an et demi à préparer ce documentaire. Ses demandes d'interview auprès de Melania Trump n'ont malheureusement jamais abouti. Et la préparation du film a été rendue plus complexe par la méfiance accrue d'une partie des États-Unis à l'encontre de la presse. Mais elle tenait absolument à souligner un aspect peu discuté du rôle de la femme de Donald Trump.
Chaque fois que Donald Trump a eu un problème, il revient avec Melania. Donc quand Donald Trump, en octobre 2016, a un problème avec le vote féminin, on a entendu dans un bus des propos de Donald Trump parler d'une manière absolument atroce des femmes, et bien 5 jours plus tard, Melania Trump fait une grande interview à la télévision américaine pour dire « ce n'était que des propos de vestiaire, Donald Trump n'est pas comme ça en privé », et elle est toujours là en soutien. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, échappe à la perception française, c'est-à-dire cette présence. On ne connaît pas bien qui est Melania Trump, mais politiquement, elle le sert quand même et elle le stabilise. Et il y a un stratège républicain dans le film qui dit, voilà, par moments, il fait trop de tweets, il est provocateur, il est impulsif, mais elle donne une certaine élégance et un certain calme à ce drôle de président.
Rendez-vous dès aujourd'hui sur arte.tv pour découvrir Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir. A noter que Laurence Haïm vient de rejoindre l'équipe de LCI pour couvrir l'élection présidentielle américaine qui aura lieu, je le rappelle, le 3 novembre prochain.
Justement, on reste dans le sujet à propos de Donald Trump. On en parlait la semaine dernière. Est-ce qu'on sait comment vont se dérouler les derniers débats prévus entre le président et son adversaire Joe Biden?
Voilà, je vous le disais vendredi, Donald Trump a refusé que le débat prévu le 15 octobre se fasse à distance. Il s'agissait d'un débat un peu particulier, ce qu'on appelle un town hall. au cours duquel des anonymes auraient pu interroger les deux candidats. L'équipe de campagne du président a demandé à ce que ce débat ait lieu en personne le 22 octobre, donc une semaine plus tard, et que le dernier débat, prévu le 22, soit décalé au 29. Mais finalement, Donald Trump n'aura pas gain de cause. Le town hall du 15 octobre a bel et bien été annulé ce week-end par la commission qui est chargée d'organiser ces débats. C'est une instance qui existe depuis les années 80. Elle a décidé qu'il ne serait pas organisé à une autre date. Ce jour-là, Joe Biden a accepté de participer à un événement similaire qui est organisé par la chaîne ABC, mais sans Donald Trump. Il n'y aura donc que deux débats cette année. Le second aura bien lieu le 22 octobre, même si l'équipe de Trump continue d'exiger un troisième affrontement, quitte à outrepasser l'autorité de la commission, qui l'accuse évidemment de favoriser Joe Biden.
On parlait de The Voice Kids il y a quelques minutes dans les audiences. C'est à nouveau une candidate du télécrochet de TF1 qui va représenter la France à l'Eurovision Junior.
France 2 l'a officialisé vendredi. C'est la jeune Valentina qui défendra les couleurs de l'Hexagone fin novembre pour la 18e édition du concours. Valentina a tout juste 11 ans, mais le public français la connaît depuis sa participation à The Voice Kids il y a 3 ans déjà. Elle a intégré un an plus tard le groupe Kids United Nouvelle Génération, avec lequel elle a déjà enregistré 2 albums. Valentina succède à Carla, qui avait participé à The Voice Kids il y a 2 ans, donc un an après Valentina. En novembre 2019, on avait pas mal parlé d'elle et de son titre Bim Bam Toi, qui avait terminé 5e. Voilà, ne me remerciez pas, comme ça vous l'avez dans la tête toute la journée. Le titre de Valentina, lui, sera dévoilé ce vendredi 16 octobre et France 2 promet une chanson, je cite, pétillante et très positive. Alors la 18e édition de l'Eurovision Junior se tiendra le 29 novembre prochain à Varsovie, parce que c'est la Pologne qui a remporté le concours l'an dernier, et ce d'ailleurs pour la 2e année consécutive. Mais la soirée aura un format un peu particulier à cause de la pandémie. Chaque chanson sera enregistrée dans un studio du pays participant. Pas de live donc, ni de plateau commun pour les enfants et les adolescents, qui tenteront de succéder à la jeune Vicky Gabor, gagnante en 2019.
Et bim bam toi, cher à Louise Bernard, notre journaliste. Aucun rapport, Nicole Kidman qui a fait une annonce inattendue ce week-end.
Le mois dernier, on a beaucoup parlé ici aussi de la série événement Big Little Lies avec Nicole Kidman donc, mais aussi Reese Witherspoon, Laura Dern ou encore Meryl Streep. TF1 l'a programmée en prime time, sans grand succès malheureusement, mais à l'international, Big Little Lies a reçu un très bon accueil commercial et critique. 2 saisons ont été diffusées sur HBO aux États-Unis, la première en 2017, la seconde en 2019, et on pensait que l'histoire était terminée, vu ce qui se passe, sans spoiler, dans le dernier épisode de la saison 2.
Il se passe quoi ?
Je peux pas vous le dire. D'autant qu'en janvier dernier, Nicole Kidman, en interview, quand on l'interrogeait sur la possibilité d'une saison 3, elle répondait que ça relevait plus du rêve que de la réalité. Mais apparemment, les choses ont changé. Elle a été interviewée ce week-end dans l'édition australienne de Marie Claire, et elle a indiqué que l'autrice du livre Big Little Lies et le créateur de la série avaient, je cite, une très bonne idée pour cette potentielle saison 3. Elle a aussi assuré qu'elle avait déjà contacté Reese Witherspoon, Laura Dern et Zoé Kravitz et qu'elle lui avait toutes dit qu'elles étaient partantes.
Et puis on termine ce journal avec une mauvaise nouvelle, malheureusement pour les exploitants de salles de cinéma.
Et oui, une nouvelle douche froide pour les professionnels. Disney a annoncé l'annulation de la sortie du film Soul des studios Pixar qui devait arriver dans les salles fin novembre. Soul devait à l'origine sortir en juin, puis en novembre donc, mais on est loin d'un retour à la normale dans les salles de cinéma. Aux États-Unis, New York et Los Angeles n'ont toujours pas autorisé la réouverture des salles, et un peu partout dans le monde, là où les cinémas ont rouvert, les spectateurs hésitent souvent à s'y rendre. On en a parlé la semaine dernière, de nombreux blockbusters ont vu leur sortie décalée, mais Disney a fait un autre choix pour Soul. Le film sera mis en ligne en décembre sur son service de streaming Disney+, et contrairement à Mulan, qui était proposé pour environ 25€ en plus du coût de l'abonnement, Soul sera 100% gratuit pour les abonnés à Disney+. Du coup, il ne reste plus que 2 gros films américains dont la sortie en 2020 n'a pas encore été annulée. Wonder Woman 1984 et Mort sur le Nil sont pour l'instant toujours attendus en décembre, mais leur sort est de plus en plus incertain.
Merci beaucoup Charles Decan, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.